Radio Libertaire, Radio Libertaire, c'est reparti. Alors on va l'arrêter hein, quand même. Sonny Rollins, ce matin, bon, avec nous sur Radio Libertaire, on va peut-être l'entendre encore un peu, quelques notes à la fin de cette émission. Alors, deuxième partie, deux chroniques hebdo. Je vous l'avais annoncé, hein, et puis Denis Lavaux est dans le studio de Radio Libertaire. Denis Lavaux, alors on va vérifier. Bonjour.
Bonjour.
Ça marche bien. Alors, pour te dire, le Monde Libertaire de ce jour, Monde Libertaire, j'en ai parlé, en première page, Bakounine, dans les programmes du Monde Libertaire, donc on a annoncé, le festival du film sur l'art brut, l'art populaire contemporain, les expressions hors normes et les environnements, et qui s'appelle... Un très beau titre, hein, mentionné, donc on l'a mentionné, Univers imaginaire de gens ordinaires. Alors, j'annonce ça, ce sera samedi et dimanche, samedi 26 avril, dimanche 27 avril, à la Maison des Cultures du Monde, il faut bien préciser, du Monde, hein, Maison des Cultures du Monde, 101 boulevard Raspail, ça dure 2 jours, et il y a autour... Tu vas me dire exactement de 25 films. Donc ça fait combien d'heures alors là, je dis tout de suite, hein, ça commence vers 10h, 12h30 pour le samedi. L'après-midi, ça doit être quelque chose comme 14h. Je regarde ça, 14h, 18h30, hein, tu vois. Je te l'apprends. Et dimanche 27 avril, 10h, 12h30 et 14h, 18h. Alors... Là aussi, l'ensemble des films, hein, on va l'aborder, et aussi rappeler une première chose, parce que j'ai parlé de la Halle Saint-Pierre tout à l'heure, tu étais venu l'année dernière présenter aussi un festival de films autour de l'art brut, l'art populaire contemporain, donc à la Halle Saint-Pierre, et là, on peut dire... par rapport à l'audience et la surface aussi, puisque la Maison des Cultures du Monde, c'est une salle importante, une grande salle qui peut permettre d'accueillir beaucoup de gens. Alors on espère que ça va, des auditeurs vont se décider à venir samedi et dimanche prochain, parce qu'en leur rappelant tout de suite, en plus, que c'est l'entrée est absolument libre et, comme je répète souvent, aussi la sortie. Alors Denis, est-ce que tu veux bien... présenter ce festival pour des gens qui écouteraient Radio Libertaire et qui se diraient qu'est-ce que c'est qu'un film, des films sur l'art brut, l'art populaire contemporain, les expressions hors les normes, rapidement leur dire ce que c'est, et puis après, eh bien, on va faire le détail de l'ensemble de ces projections, plus certaines que d'autres, insister et puis un petit peu développer, voilà.
Oui, alors en fait, le festival de films, il va se dérouler dans un double cadre. À la fois l'exposition Eurovision 25 ans d'art brut à la Halle Saint-Pierre, et aussi dans le cadre du festival de l'imaginaire à la Maison des Cultures du Monde, qui a effectivement la gentillesse de nous accueillir pour ce festival. Et la salle est effectivement très spacieuse, plus spacieuse que le pauvre auditorium de la Halle Saint-Pierre. Et c'est avec plaisir qu'on ira là-bas pour présenter ces films. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un film sur l'art brut ? Bon, c'est simplement, puisque l'art brut, l'art populaire contemporain, les expressions hors normes, les environnements, sont des œuvres qui sont créées par des gens qui les trois quarts du temps se situent complètement hors des circuits artistiques traditionnels. Bon, maintenant la situation a un petit peu changé. Avant, ils n'étaient pas reconnus par le monde de l'art officiel, et d'ailleurs c'est un peu Jean Dubuffet qui était à l'origine de ça par rapport à l'art brut, qui était l'art brut préféré aux arts culturels. Bon, depuis quelques années, c'est vrai que les critiques d'art, certains musées s'intéressent à ces formes d'expression, mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que à la fois par l'esthétique, par les matériaux utilisés, par leur mode de vie, ces créateurs-là sont complètement, ont vraiment une place à part. Et ils sont... pour la majorité, enfin même totalement, ils sont très souvent autodidactes.
Oui.
En ce ce qui concerne donc les films, ça va y en avoir à peu près 25 en tout.
Oui, il y a...
Et on va voir, j'ai parlé de personnages étonnants.
Oui.
J'ai parlé de personnages étonnants. Par exemple, il va y avoir un film sur Eijiro Miyama, qui est un Japonais. Et en fait, il porte non seulement en lui, mais sur lui, sa création.
Oui.
C'est-à-dire, c'est un personnage qui se balade, qui est un vieux monsieur maintenant, qui se balade dans les rues de Yokohama, où il réside, et voilà, il s'est créé sur lui, et il porte sur lui son œuvre d'art. Mmh. C'est quelque chose de tout à fait étonnant.
Alors, je vais dire justement, parce qu'on a précisé tout à l'heure, culture du monde. Hein. C'est-à-dire, là aussi, l'intérêt, c'est qu'on va aller en Afrique, dans la présentation, en Amérique, hein, et rappeler qu'en Amérique, c'est pas forcément qu'aux États-Unis, hein, puisque souvent, c'est ce qui est dit, en Asie, et puis aussi en Europe. Et l'intérêt, alors peut-être préciser, parce que comme ce sont des films, là aussi, le réalisateur, la personne qui filme, on pourrait dire aussi, il y a plusieurs façons de filmer selon sa sensibilité, c'est-à-dire que le même créateur pourrait être perçu par deux ou trois cinéastes de façon différente. Hein. Alors, et donc là, il y a quand même une intervention qu'on pourrait dire, tu sais, pour rappeler, puisque tu rappelais Dubuffet au début de cette émission, avec son expression « c'est le regardeur qui fait le tableau », là, il y a l'importance quand même de celui qui filme, et de l'autre, qui est aussi une sorte d'auteur, puisque ça passe par ce médium, si l'on veut, de la perception, de la reconnaissance de l'œuvre par le film. C'est pas une vision comme à la Halle Saint-Pierre où les gens qui vont à la Halle Saint-Pierre regardent des œuvres exposées. Là, il y a quand même cette particularité où il y a des films et donc l'intervention aussi des auteurs de ces films-là qui ont eux-mêmes leur particularité.
Tout à fait. Alors justement, va y avoir par rapport à André Robillard, qui est un créateur qui est exposé à la Halle Saint-Pierre, dans le cadre de l'exposition actuelle, va y avoir deux films par deux réalisateurs différents.
Oui, voilà.
Donc ça montrera effectivement deux regard, deux sensibilités d'auteur sur un même créateur.
Oui, voilà.
Alors, je veux aussi faire une précision, c'est-à-dire que à la fois, il va y avoir des films sur des créateurs qui sont dans l'exposition, mais il y aura aussi un panel beaucoup plus large pour montrer que en dehors de ceux qui sont dans l'exposition, eh ben ces créateurs, on en trouve pas mal de par le monde, en fait.
Oui.
Alors là, quand tu parlais de l'Amérique, on n'aura pas de film, si je ne me trompe pas, sur l'Amérique du Sud, mais on aura, par exemple, des films inédits, qu'on ne connaît pas du tout en France, qui seront d'ailleurs des petits films non sous-titrés, mais que l'on présentera avant, sur des environnements aux États-Unis.
Mmh.
Bon, sur les autres environnements, bon, là, il y aura quelque chose d'assez...
Alors, juste celui-là, on peut dire peut-être... il y a Richard Greaves, hein.
Tout à fait. Alors, Richard Greaves, c'est un Canadien qui se qualifie, c'est un peu un anarchitecte.
C'est ça.
Puisqu'il déconstruit...
Ouais, ouais.
Il déconstruit des maisons pour les reconstruire. Enfin, les reconstruire à sa façon, parce que c'est quand même une forme d'architecture tout à fait particulière, qui fait dans une forêt, dans une forêt canadienne.
Donc dire aux éditeurs, enfin pour toi évidemment, mais pour moi j'ai vu quand même plusieurs films déjà autour de Richard Greaves. Alors ça je vous recommande. Donc là aussi le réalisateur, il y aura, on va en parler tout à l'heure. Alors donc pour Bruno Decharme, on en citera tout à l'heure des réalisateurs. Mais je voulais revenir à André Robillard, comme tu l'as cité. qui est quand même un personnage, quelqu'un d'assez extraordinaire, puisqu'on dit, on parle de genre ordinaire. Alors, de genre ordinaire, les auditeurs vont dire festival de l'imaginaire, de genre ordinaire. Je pense que c'est genre ordinaire, c'est là que les auditeurs ou des gens qui ne connaîtraient pas viendraient, vont s'apercevoir que ce sont aussi peut-être des gens extraordinaires, comme Robillard, et en particulier... tu le sais bien, un ouvrage que je trouvais, dont le titre est assez évocateur et en même temps passionnant, « L'art brut tue la misère ».« L'art brut tue la misère et change la vie hein ». Et « L'art brut tue la misère et change la vie » pour Robillard. Et donc, si tu veux dire quelques mots autour de Robillard, de ce personnage qui fabrique des fusils, non ?
Bah, je suis pas un spécialiste d'André Robillard. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des quand même quelques problèmes psychiatriques.
Pas plus que certains.
Mais oui, voilà, oui, tout à fait. Voilà, ouais, mais bon, ça. Quand on parle de gens, quand on parle de gens ordinaires, bon, c'était pour dire, et je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas fait d'études artistiques, qui sont des gens comme, je sais pas, un boulanger, quelqu'un qui a un métier ou qui n'en a pas, et qui, à un moment donné, a une je dirais pas une vision dans ce cas-là, mais qui, justement, comme tu l'as dit, pour, il a besoin de souffler, de faire quelque chose. Et cette personne, très spontanément, se met à faire une création, le plus souvent avec ce qui lui tombe sous la main. Bon, alors, si on parle de Robillard, bon, bien sûr, on parle très souvent des fusils.
Ah, oui.
Mais il n'y a pas que les fusils.
Non.
Je veux dire que Robillard a fait aussi des centaines et des centaines de dessins, parce que c'est aussi un fou un fou du cosmos.
Oui, oui.
Quand on pense à ses dessins sur les Spoutnik, sur les cosmonautes et tout ça, bon, c'est quelqu'un qui a un univers absolument incroyable. Bon, il joue de l'accordéon, il a participé à un moment et un spectacle dans lequel lui-même intervenait, bon, qui était quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça veut dire que ces gens, il est tellement spontané que, par exemple, le jour où j'ai vu le spectacle qui était dans un petit théâtre Porte de Bagnolet,
parce qu'il
était en train de faire de la musique, et il n'arrivait pas à s'arrêter parce qu'il était... Il était complètement parti pour vivre son truc. Et c'est ça qui est assez extraordinaire.
Oui, juste pour lui, et quand l'art brut tue la misère, parce que lui, il fait les fusils, mais le détournement, alors avec des objets...
Voilà, des objets de la vie quotidienne... Qui sont totalement réutilisés, reconvertis et métamorphosés, en quelque sorte.
Et alors, il donne, justement, il subvertit le fusil.
C'est-à-dire
que là, il y a une sorte de... Moi, je ressens ça comme ça, une destruction de l'arme par rapport au fusil de Dubillard, d'avoir, au contraire, une très grande poésie et une très grande tendresse qui subvertit complètement les armes. Enfin, moi, je ressens ça quand je vois les fusils d'André Robillard, cet élément-là. Alors ça, c'est une des particularités, justement, des créateurs, puisque plutôt de dire d'art brut que des artistes, d'avoir eux-mêmes une proposition qui est quelquefois chargée d'émotion et aussi d'une vision qui subvertit les codes, les façons de voir habituelles, communes, qui sont dans la tête des individus. Quand on reprend Dubuffet, qui nous dit « asphyxiant de culture », nous sommes formatés, conditionnés, manipulés par cette culture officielle, et eux arrivent pour justement la subvertir et nous montrer d'autres chemins de voir autrement, et je pense que on en a besoin en particulier en ce moment. Voilà.
Oui, ça c'est je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Bon, maintenant, j'ai dit tout à l'heure que pendant une très longue période, ces formes d'expression étaient non seulement peu ou pas reconnues, mais très souvent méprisées par le monde de l'art officiel. Bon, maintenant, j'ai aussi parlé de ce que j'emploierais même le mot récupération par le marché de l'art, puisque il y a eu différentes manifestations, dont une foire à Paris il y a quelques mois, en parallèle à la FIAC. Il y a des galeristes qui s'emparent de ça. Il y a des grands critiques d'art. Je dis grands. Bon, vous m'avez compris. Vous avez trouvé les guillemets. Vous avez entendu les guillemets, et qui maintenant parlent de ces formes d'expression, alors qu'avant, bon, ça ne les intéressait absolument pas. Bon, il y a aussi quelque chose, c'est aussi maintenant la muséification qui, dans certains cas, peut aussi poser des problèmes, parce que si on pense à certaines personnes, j'ai cité Wolf Lee ou Aloïs, qui étaient des personnes qui étaient internées. Wolf Lee vivait dans une pièce qui faisait peut-être 4 mètres carrés et tout ça. Bon, maintenant il y a eu un psychiatre ou des soignants qui ont eu l'intelligence non pas de tout détruire mais de sauvegarder à l'époque. Mais maintenant, je veux dire que quand c'est dans certains cadres de musées, bon, effectivement, il y a quelque chose qui manque. À la fois, on peut être très heureux que ces créations soient sauvées. Mais il y a aussi la froideur du musée quand on voit des murs de 10 mètres de haut, bien ripollinés et tout ça. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre,
oui.
Mais c'est pour aussi quelque chose qui a son importance.
Bien sûr, oui. Et alors, là aussi, puisqu'on peut-être on reviendra, tu disais tout à l'heure aux gens qui ont ressenti... de faire quelque chose, de dépasser quelquefois des possibilités, est atteint par une forme de handicap comme Émile Ratier, qui ne voyait plus beaucoup et qui a construit des jouets extraordinaires. Hein. Alors donc, le dire tout de suite, puisque peut-être que Caroline Bourbonnais, qui s'occupe, on en a parlé plusieurs fois sur Radio Libertaire, en particulier dans cette antenne, de la fabuloserie, sera peut-être là, on ne sait pas, hein, peut-être...
Caroline Bourbonnais est quand même âgée. Bon, oui. Éventuellement, elle sera représentée. J'espère qu'elle sera là, très sincèrement. Oui. Bon, autrement, je suis quasiment sûr que l'une de ses filles sera présente à cette occasion. Ça,
je te parlais d'Émile Ratier. Alors, lui, ses jouets en bois, c'est justement, là aussi, on parlait tout à l'heure, il y a chargé, puisque je parlais de fusil, d'une poésie extraordinaire pour Émile Ratier. Et alors, on va en parler, ce sont des objets... que l'on peut aller voir dans certains lieux, comme à la fabuloserie, mais par les films. Donc on va se promener, et on va aller aussi, justement, en Inde, avec les Chang, de raconter ça, parce que c'est un espace extraordinaire, justement, là, on parlait ordinaire pour lui, et la possibilité, avec ces films, c'est d'aller dans les pays dont on a parlé tout à l'heure, où pour les lieux dans l'Hexagone, c'est pas trop de difficultés, là, le Saint-Pierre, la fabuloserie, enfin, il y en a d'autres, là, à Bègle, où les gens peuvent aller, mais là, pour Greaves, comme pour Champs en Inde ou en Afrique où on va aller, c'est plus difficile. Donc ça, c'est une particularité par ces films-là. On va voyager et on va montrer que pour art norme, l'art brut, l'art populaire contemporain, eh bien, tous les pays sont concernés. Hein, ça, selon les sensibilités, selon les cultures. Alors Dubuffet dirait, il n'y a pas d'impact de la culture officielle, mais eux, ce qu'ils ressentent par rapport à des traditions, des expressions totalement différentes. Et je pense que l'intérêt des films, enfin moi je le dis, sur certains que j'ai vus, ça peut bousculer. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas habitués, leur univers mental, quelquefois un peu rigoureux, un peu rationnel, va être un petit peu chamboulé. Hein.
Oui, enfin dans une certaine mesure, parce que bon, à la fois on peut trouver dans les créations de certains, on peut retrouver des choses assez difficiles à voir, à supporter, parce que ces gens-là expriment leur univers mental. D'autres fois, il peut y avoir aussi énormément d'humour ou de poésie. Bien sûr, tu l'as dit, pour Émile Ratier. Ouais. Bon, pour Nek Chand, c'est encore un autre cas puisqu'il s'agit d'un parc de sculptures qui est à Chandigarh, donc en Inde. Me demandez pas si c'est au nord ou au sud. Je suis très mauvais en géographie, là, faut pas exagérer. Bon, donc, et c'est quelqu'un qui s'est mis un jour comme comme ça, à il avait accaparé, en fait, il avait un métier et il travaillait pour les à peu près l'équivalent de nos ponts et chaussées, et à un moment il avait, je crois que c'est dans les années 70, il avait accaparé un petit terrain qui ne lui appartenait pas d'ailleurs, et la nuit, en fin de journée, il ramenait des pierres, des choses, et la nuit, il s'est mis à construire des sculptures, qui représentent essentiellement, qui sont liées aux croyances indiennes de l'Inde. Et après, la municipalité a découvert son site. Bon, heureusement, il a pu continuer à le faire. Alors, c'est un endroit qui est, dans le film, c'est absolument flagrant. C'est un endroit qui, pour la population, est très important et très populaire. Les gens amènent les femmes qui ont des petits colliers de pacotille qui se cassent, lui amènent parce que, je sais pas, une perle de verre, Nekshant s'en servira peut-être pour faire les yeux d'une de ses sculptures, etc. Donc il y a une grande adhésion populaire. Et alors, au moment du film sur Nekshant, il y a quand même, d'une part, le réalisateur Philippe Lespinasse, oui, a été plusieurs fois, je crois qu'il y est retourné cette année, d'ailleurs il nous le dira, et il y aura aussi John Mazel, qui est cofondateur et actuel rédacteur en chef de la revue Eurovision, qui sera présent et qui interviendra, puisque Eurovision soutient depuis très très longtemps, depuis au moins 25 ans, depuis que Eurovision existe, soutient absolument ce site, voilà, qui s'étend quand même sur plus de 10 hectares.
Alors, juste comme ça, parenthèse, Philippe Lespinasse, plusieurs chroniques, il a fait dans le Ciné mensuel, il y a eu plusieurs chroniques où il a, il me semble l'été dernier, les propositions de lieux, de lieux à découvrir, donc dans l'Hexagone en France, la possibilité. Et puis pour les auditeurs, eh bien leur dire, Pierre Karl, ils connaissent bien, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, les chiens de garde et tout ça, et ami avec Philippe Lespinasse, et qui sera présent donc à la maison des cultures. Alors là, pour le choix, je voyais aussi, on parle des incontournables, enfin il y en a certains. Pour les lieux où on se promène, on peut parler de la baie fourrée, ça c'est quand même quelque chose.
Alors j'ai malheureusement
pour le film.
Une nouvelle assez surprenante,
c'est
que hier j'ai puisqu'on a déjà, je voudrais aussi dire une chose, c'est que sans les réalisateurs, cette manifestation elle aurait été impossible.
Bah oui.
Ça c'est absolument flagrant, et Pierre-Jean Wurs, donc de l'association Hors Champ, et moi-même pour la Halle Saint-Pierre, on les remercie parce que des films, il en existe beaucoup, y compris sur les sujets qu'on va traiter. Pierre-Jean me dirait qu'il y a à peu près 300 ou 400 films qui existent, faits par des réalisateurs de différents pays, pas seulement par les Français. Et maintenant, il y a toujours les problèmes des droits, de ceci, de cela. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à régler, de compliqué à régler. Et là, lorsque les réalisateurs sont tout à fait d'accord pour participer à ce genre de manifestation, c'est effectivement important. Alors c'est vrai qu'il y a des films qui ont déjà été vus. Maintenant, il y aura sans doute, peut-être, comme c'est la Maison des Cultures du Monde, un public qui sera plus large que les habitués qui viennent à la Halle Saint-Pierre. Là, c'est aussi une opportunité pour d'autres, un autre public de découvrir ces formes d'art, quoi.
Oui, parce que ça rentre dans ce cadre de festival de l'imaginaire.
Tout à fait.
De la Maison des Cultures du Monde aussi. C'est une bonne initiative.
Oui, alors, pardon. On parlait donc de la baie fourrée. Et hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer Bruno de Charme, donc pour faire un test film. Et il s'est trompé et il a mis Lobanov à la place.
Qui est aussi remarquable. Mais c'est autre chose, un petit peu autre chose, pour ce film. Alors, je te disais, le travail, enfin ce qui est fait, pour le festival de l'imaginaire. Alors si tu veux, Denis, on peut, puisque tu as apporté une petite partie musicale, on peut en même temps, mais grande peut-être par l'intérêt, tu avais apporté Gaston Coutet en proposant aux auditeurs d'écouter Petit Pousset, un texte chanson de Gaston Coutet, interprété par quelqu'un qu'on aime bien, enfin les auditeurs de surtout de Radio Libertaire, Gérard Piron. Alors tu veux en dire un mot avant de le passer, là on va le passer tout de suite, ouais.
Alors, en fait, d'une part, j'aime bien Gaston Coutet, qui avait été publié, j'avais lu ça il y a pas mal d'années, c'était Le Vent du Chemin, si je me souviens bien, qu'il l'avait publié.
Oui, ouais.
Bon, ensuite, il y a eu le disque de Gérard Piron et Marc Robin.
Oui.
Bon, et là, en fait, c'était un peu, parce que, je voudrais le dire, avec Pierre-Jean Wurst et la Halle Saint-Pierre, on a décidé de dédier ce festival à un ami qui aurait dû être parmi nous, Jean-François Maurice, qui est fondateur et animateur de la revue Gazogène, et qui malheureusement est décédé le 6 mars de cette année, à l'âge de 66 ans, des suites d'un cancer. Et donc on voulait absolument, il avait participé, Jean-François était présent à chaque fois qu'on faisait quelque chose. On a aussi à la Halle Saint-Pierre organisé des choses avec lui, et c'est pour ça qu'on lui dédie ce festival. Donc c'était aussi pour...
Voilà. Donc on va écouter cette interprétation, Gaston Coutet, Gérard Piron, Petit Pousset.
Puisqu'on ne gagne plus sa vie au bout des sillons de chez nous, un jour j'ai dû quitter ma mie pour la ville où pleuvent les sous. Et ce jour-là dans ma mémoire, livre clos des contes du passé, j'ai vu se réveiller l'histoire, l'histoire du petit poussé. En partant chez l'ogresse, l'ogresse qu'est la vie, j'ai semé des caresses pour retrouver ma vie. Pousset semait parmi les centes son pain bis et ses cailloux blancs sur le corps blanc de ma charmante, qu'elle se mit de baisers brûlants sur son front et ses yeux en fièvre, sur son ventre et ses seins en pleurs. Le geste rose de mes lèvres a semé l'amour de mon cœur. En partant chez l'ogresse, l'ogresse qu'est la vie, j'ai semé des caresses pour retrouver ma vie. Un jour pour retrouver mamie, où sont mes baisers d'autrefois? Les baisers sont de blanches milles, sous le bec des oiseaux les bois. Plus un seul sur sa chair impure, un seul de mes baisers brûlants. Tous sont partis sous la morsure des baisers des autres galants. En partant chez l'ogresse, l'ogresse qu'est la vie, j'ai semé des caresses pour retrouver mamie. Mamie qui ne se souvient guère, se rappelle pourtant qu'un jour je l'ai frappée dans ma colère d'une gifle de mon poing lourd. Elle me reproche ce geste toujours avec la même ardeur. Le mal est un caillou qui reste dans les pauvres sentiers du cœur. En partant chez l'ogresse, l'ogresse qu'est Paris, j'ai semé des caresses pour retrouver ma mie.
Thank you.
Chronique Hebdo qui reprend, voilà, jusqu'à midi avec les auditeurs qui arriveraient sur l'antenne. Denis Lavaux dans le studio. Alors, je vous ai dit, Denis Lavaux, Pierre-Jean Wurs, hein, de l'association Orchamp, pour le festival de films hors normes. Alors, de festival de films. Je vais vous dire alors d'abord qui a lieu, je vais le rappeler, à la Maison des Cultures du Monde, 101 boulevard Raspail, dans le 6e, samedi et dimanche prochain. Et ce festival du film sur l'art brut, l'art populaire, contemporain, les expressions hors normes, les environnements, qui s'appelle, intitulé « Univers imaginaire de gens ordinaires ». Alors juste, Denis Lavaux, ben une auditrice, elle qui est aussi animatrice sur Radio Libertaire, et qui s'appelle Jacqueline, et qui fait une émission le vendredi, qui s'appelle « Place aux fous », avec son compagnon Eric, et que tu connais. Hein, c'est pour ça qu'on en a parlé, en particulier justement, qui s'est occupé de traduction chinoise. Et voilà. Alors, elle pense, et beaucoup d'autres auditeurs et animateurs, ça va être ça, venir, donc samedi ou dimanche, ou les deux jours, à ce festival. Alors, pour le festival, alors rappelez, donc, le nombre de films projetés, la durée quand même, la matinée, l'après-midi, jeudi, je rappelle, 10h, pour le samedi, 12h30, l'après-midi, 14h, 18h30, pour le samedi, pour le dimanche, 10h, 12h30, l'après-midi, 14h, 18h, alors, il y a présence aussi alors de réalisateurs, et puis je vois aussi une femme sous influence, on va en parler, en présence du réalisateur, donc c'est Yvonne Cazier, peintre médium, en présence de Laurent Danchin. Alors s'il a l'écoute, on te salue. Alors évidemment, qui est venu plusieurs fois sur Radio Libertaire, hein, pour autour de l'art brut. Alors en particulier, Denis, des films que tu as repérés qui te touchent, c'est difficile hein, de dire en particulier, dont tu as un intérêt un petit peu plus de vouloir en parler, parce qu'il y en a beaucoup. On a évoqué tout à l'heure le Japon, hein, aussi le Japon. J'avais vu un petit film sur un personnage aussi, alors c'est très particulier, qui se prend pour un conducteur de tramway, fait un circuit imaginaire à Lausanne, mais hein. Bien sûr, vas-y.
Tout à l'heure, j'ai parlé du japonais qui portait son œuvre sur lui, non seulement lui. Et là, Martial est un personnage, était un personnage tout à fait étonnant, dans le film de Kurosawa de Descadène, il y avait le héros du film de Kurosawa, d'Akira Kurosawa, qui se prenait pour une locomotive. Là, le personnage, Martial, s'identifiait réellement à un bus. Donc il avait créé, d'ailleurs j'ai retrouvé une phrase dans un livre qui est le petit dictionnaire sur l'art brut au cinéma qu'a fait l'association Orchamp. Martial disait j'ai créé une ligne imaginaire qui m'aide à supporter le monde. Donc c'est quelqu'un qui il avait créé effectivement sa ligne imaginaire, et il traversait les rues de Lausanne, en faisant des arrêts. Il était le tramway. Bon, le film date de 1983. Ce qu'il faut dire, c'est que Martial a été interné de force en 1986. Je crois qu'il avait 24 ou 26 ans. Là, j'ai un petit trou de mémoire. Et pour dire que c'était sa vie. Il était ce bus, ce trolley dans les rues de Lausanne. Et heureusement, un cinéaste, Michel Etter, s'y est intéressé et a filmé. Donc c'est quelque chose de tout à fait étonnant, et un film auquel on tient beaucoup.
Alors, je vois, on va commencer celui-là, on a déjà commencé, l'ouverture du festival, l'ordre, bon, ça sera sûrement celui-là, hein, puisque j'indique quand même aux auditeurs, vous pouvez aller sur le site de la Halle Saint-Pierre, ou le programme, l'ensemble du programme, vous pourrez trouver l'ensemble du programme sur le site de la Halle Saint-Pierre, et puis aussi voir une petite vidéo, vous verrez Denis Lavaux, hein, c'est-à-dire 5-6 minutes, Denis Lavaux, où tu présentes ce festival. Alors l'intérêt aussi, puis j'ai dit tout à l'heure, évidemment la liaison, la relation évidente entre ce festival et ce que fait la Halle Saint-Pierre, un peu hors les murs, là aussi, que ce soit à l'intérieur de la Halle Saint-Pierre, je conseille toujours l'exposition évidemment en ce moment, et d'aller à la librairie, et puis aussi, tu en parlais au début de cette émission, dans le petit auditorium, où là, il y a des rencontres avec des auteurs sur la littérature, il y a de la musique, et il y a aussi des offres poétiques, hein, il y a beaucoup de choses d'organiser, tout ça, vous l'avez sur le site de la Halle Saint-Pierre. Alors, le festival qui va commencer ce samedi, est Driving... Driven by Vision, Jim Bishop.
Driven by Vision, ouais. C'est le titre d'une série de films. C'est le titre générique. Donc, ce qui veut dire, c'est un peu conduit par la vision. Donc, conduit, c'est pas au sens de la voiture. On est poussé, inspiré par les visions. Mmh. Et ces films, on les a. Alors, ils seront pas sous-titrés, malheureusement, mais bon, ce sont des films très courts. Là, il y aura des personnages tout à fait étonnants. On commencera par Jim Bishop. Je vais pas vous raconter toute sa vie aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui, assez jeune, est parti acheter des lopins de terre dans un coin du Colorado. Et d'abord pour construire une cabane, après il a voulu faire quelque chose d'un peu plus solide, et quand les gens venaient le visiter, ah ça ressemble à un château ce que t'as fait. Et ça a été le déclic pour lui, et il s'est mis à construire pendant 40 ans sur ce bout de terre de montagne du Colorado, parce que ça se passe quand même à plus de 2000 mètres d'altitude, Il s'est mis à développer un château en pierre et en fer, parce que son père avait un atelier de fer ornemental, et donc il s'est mis à travailler. Bon, je ferai quand même il a bâti son rêve américain, il a vécu grâce à des dons aussi. Moi, je ferai quand même une petite réserve, c'est que le personnage, en même temps, il a un discours à un moment dans le film. On le montre vraiment pour son travail. Bon, il est un peu rêve américain et white power, quoi. Bon, ça, c'est un petit peu désagréable. C'est construit avec l'aide de Dieu, etc. Bon. C'est son droit, mais bon, faut voir l'œuvre. C'est vrai que là, il y a quelque chose d'extraordinaire avec, par exemple, une tour qui arrive avec une flèche de métal en haut, et ça dépasse les 48 mètres de haut. Donc c'est vrai que là, faudra s'attarder sur la construction et pas sur les propos du monsieur. Par contre, le deuxième film qui sera après, c'est quelqu'un qui est tout à fait différent. On ira au Kansas.
Pascal Verbena.
Non. Toujours dans Driven by Vision. Et là, ce sera un personnage tout à fait différent qui fait des sculptures en métal qui représentent des choses, des animaux, des gens de son imagination, certaines femmes qu'il a rencontrées, puisque il a été un temps dans la Navy, et il a fait aussi quelque chose qui dérange là les gens, c'est qu'il fait aussi des sculptures plus ou moins caricaturales d'hommes et de femmes de la vie publique américaine. Ça peut être des présidents, ça peut être des sénateurs, des procureurs, Et là, dans le film, on l'entend à un moment, il dit « Je ne suis ni libre-penseur, ni démocrate, ni républicain. Je fais vraiment ce qui me plaît selon mon humeur. » Et il dit aussi « Mais j'en ai rien à secouer de ce que pensent les autres. » C'est, ouais, c'est le terme un peu en anglais. Oui, « Je fais ce qui me plaît. » Voilà. Et quand on voit un peu ces caricatures politiques en métal, c'est quand même assez rigolo, quoi.
Et là, on pourrait dire peut-être pour les États-Unis qu'on leur laisse un peu plus tranquille pour des tas de raisons, par l'ensemble de la surface, la superficie des États-Unis, mais aussi une forme de culture où les gens peuvent faire des trucs, alors qu'on voit ici dans les pays un plus jacobins, autoritaires, pour les États-Unis c'est le cas, mais de foutre un peu la paix, parce que peut-être qu'il y a de la place à des gens qui partent dans des constructions comme ça hors les normes et qui la maréchaussée ou les autorités ou les voisins leur foutent la paix.
Oui, mais ça, c'est vrai que c'est tout à fait surprenant. Mmh. Alors bon, on avait beaucoup de films dans cette série Driven by Vision. Bon, on en a choisi deux pour le début et deux petits films pour clôturer. Mais bon, on a regardé pour les sélectionner. Et c'est vrai que dans différents films, on voit les gens du voisinage qui viennent. Ils font des barbecues ensemble. Mais les intervieweurs disent ça vous dérange pas ce qu'il fait ? Bon, ah non, pourquoi ça nous dérangerait ? Tant qu'il fout pas le bordel, tant qu'il y a pas de problème. Non, au contraire, c'est sympa, on est bien entre voisins. C'est vrai que ça a un côté extraordinaire, alors que dans certains cas, en France, je sais pas ailleurs en Europe, mais en France, bon, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes de voisinage où ils sont pris pour des emmerdeurs. Des fois, il y a même dans certains cas, il y a eu du vandalisme, etc. Bon, et c'est vrai qu'en plus, il y a toute la restriction qui est de plus en plus importante au niveau des lois communales et tout ça. Bon, les gens qui habitent en ville, vous n'avez pas le droit de mettre n'importe quel revêtement sur vos fenêtres, vous n'avez pas le droit de ceci, vous voulez foutre un store, faut passer par l'assemblée de copropriétaires, par le syndic et toutes toutes ces conneries-là. Mais bon, alors que là, c'est vrai que en même temps, alors il y a à la fois l'espace, mais je pense que en dépit du côté puritain des Américains, enfin de certains d'entre eux,
liberté,
d'un autre côté, d'expression, il y a autre chose, ce qui est tout à fait étonnant. Et des fois, on aura aussi peut-être des petites leçons à prendre aussi sur cet aspect.
Juste ça rejoint un peu, parce que je dis ça aux auditeurs comme ça entre parenthèses. Noam Chomsky connaissent bien, le grand linguiste. Il y a Gondry, qui va faire un film. Là, le film, il y a des avant-premières. Essayez d'aller voir ça, puisque certains ont dit, comme penseur anarchiste, par rapport à opposition de Noam Chomsky, et l'expression aussi pour les États-Unis de dire liberté, pas sans restriction, de la liberté d'expression. C'est-à-dire que des gens peuvent écrire aussi ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Et là, encore une fois, les choses, les gens achètent ou pas, mais il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas des lois d'État qui essaie, alors après, ça, il y a peut-être des équilibres qui se font sur le fait que des éditeurs ne veulent pas éditer, ou les gens n'achètent pas certains bouquins. Alors que ici, sous le couvert toujours de la loi, c'est-à-dire, il y a plein d'interdictions, et certaines œuvres sont qualifiées, comme tu le sais, révisionnistes, négationnistes et tout ça, on interdit, mais on interdit de plus en plus de choses, et comme on dit, c'est la liberté d'expression contrôlée, dans lequel un peu on est en train d'aller de plus en plus, et qui fait que pour tout ce que tu venais de dire, pour simplement des petites choses, alors que la publicité dégueule absolument partout, que ce soit dans les villes, quand on arrive dans une ville, tout ce que l'on peut voir, alors que là encore, des gens qui, dans leur jardin, feraient une petite installation, on viendrait presque les emmerder, ou ils se feraient un petit peu vandaliser. Tu vois, c'est un petit peu ça. Je pense que ça a peut-être un des effets de comparer. Là aussi, ça permettra peut-être, ce festival, de comparer un peu ce qui peut se passer dans différents pays et comment c'est accueilli. Et là, en France aussi, peut-être, on en parlait, le format formatage de la culture officielle, de la musification, de la tradition, qui fait qu'il y a une sorte d'obligation pour des normes, comme on dit, et tous ceux qui voudraient échapper à ça, bon, ont de plus en plus de difficultés.
Hein. Oui, je voudrais dire, il y a un autre aspect par rapport à ça, c'est l'aspect que j'appellerais des politiques culturelles. Des politiques culturelles qu'elles dépendent des mairies ou bien de l'État. Je pense qu'il y a aussi là un petit problème de peut-être de formatage ou autre. Bon, alors, c'est vrai que les lieux là, comme la Halle Saint-Pierre, bon, effectivement, c'est vrai, des subventions de la mairie. Bon, qu'on baissait pas mal, etc. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, à la Maison des Cultures du Monde, dépendent du ministère de la Culture. Bon, ils ont aussi des problèmes. Et c'est vrai que ça amène aussi des lieux comme la Halle Saint-Pierre ou la Maison des Cultures du Monde, qui sont des petites structures par rapport justement aux grandes institutions qui sont faites soit par les villes ou par le ministère de la Culture. Et c'est vrai que ça contribue peut-être une sorte de rétrécissement à un moment donné. Voilà ce que je pense, et je pense que ça a son importance,
oui,
parce que
oui.
C'est vrai que la Maison de la Culture, les Maisons des Cultures du Monde, bon, qui présentaient des choses incroyables, bon, ils subissent en même temps la concurrence des moyens du Quai Branly sur le même créneau. Bon, la Halle Saint-Pierre subit d'une certaine façon les contre-coups d'exposition que peut vouloir monter, je sais pas, par exemple le musée d'art moderne, etc. Donc il y a aussi, d'une certaine façon, une main... alors, je critique pas ce qui se fait dans ces lieux-là, mais en même temps, d'une façon, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Et ça, je pense que ça restreint un peu la curiosité, le regard des gens. Enfin bon, je sais pas si je m'exprime bien, c'est un petit peu...
Non, sur cet aspect-là, de montrer comment de plus en plus... Enfin là, on parlait, peut-être ça peut être intéressant de dire... Quand d'autres ont parlé de contre-culture, l'art brut et tout, l'art singulier, de culture alternative, moi j'aimerais mieux l'expression, enfin c'était employé par certains de nos amis, d'autres cultures, une autre culture, hein, c'est-à-dire, mais cette autre culture, elle n'est pas facile, parce qu'encore une fois, comme elle est libre, comme elle part de personnes qui veulent être en dehors des créneaux officiels, eh bien, là encore, on dit une fois, cette pression officielle est gigantesque. Alors, il y a quand même, on va le dire, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, ce festival des cultures du monde qui va avoir lieu samedi et dimanche prochain. Alors, c'est pour ça, les auditeurs de Radio Libertaire, on les invite tous à venir, hein, pour voir justement ce que c'est et comment à partir de certains films, si d'autres ne sont pas encore ont été mis en contact avec l'art brut, on appelle ça les expressions hors des normes, ça pourra être un déclencheur, parce que ça s'est fait quelquefois, tu sais bien comment ça s'est fait pour toi, pour d'autres, à partir d'une œuvre, à partir d'un objet ou à partir d'un environnement. Et eh bien, ça, comme on dit, pour le facteur cheval, en tout cas, ça a déclenché chez certains un appétit et une façon. Alors, c'est pour ça que l'intérêt, je pourrais là peut-être un peu sur un plan plus philosophique, comment au-delà de l'art brut et de ce type de festival, ça peut amener les gens à avoir après une vision différente, plus large, ouverte et critique peut-être de la culture officielle. Hein? Voilà, je voulais dire. Donc, Denis, il reste. Non, mais c'est pas fini, hein. On a encore 5 minutes. Alors, toi, tu pourrais dire, en particulier, dans la liste, hein, parce qu'elle est nombreuse, d'auteurs et puis de réalisateurs, un film en particulier que tu avais pas vu ou qui t'a particulièrement, auquel tu as été particulièrement sensible. Tu as dit ça, ah là là, j'ai ressenti quelque chose de formidable.
Moi, je pense qu'il y a un film, aux couleurs du silence. C'est un film qui se passe, qui a été filmé dans le Gouging, à la Maison des Artistes. C'est en Autriche. Ah, oui. Et là, je trouve qu'il y a un film où on présente les œuvres de trois personnes qui sont internées. Je trouve qu'il y a une sensibilité dans l'approche, dans la façon de filmer, que je trouve assez exceptionnelle. Je veux dire que la réalisatrice Milka Assaf, qui est une documentariste d'origine franco-libanaise, a une sensibilité vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'on a... Là, c'est Pierre-Jean qui, au départ, avait insisté pour qu'on passe ce film. Ça n'a pas été simple. Et on pourra avoir ce film grâce, justement, directement à la réalisatrice, puisqu'elle nous prête sa copie sur laquelle elle a les droits, puisque le distributeur... ne répondait pas. Donc là, il faudra vraiment être là. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement sensible par rapport à cet univers. Et en même temps, ça permettra peut-être un débat un peu plus large, peut-être par rapport à ce qu'on appelle aussi la thérapie. Enfin bon, à chaque fois, il n'y aura pas 40 minutes de débat, puisque 25 films au total, 9 ou 10 invités. Voilà. Mais ça, c'est un film qui, Pierre-Jean insistait pour qu'on le passe, je l'ai vu. Et je trouve qu'il y a une sensibilité extraordinaire. C'est pas un regard, c'est pas du voyeurisme, parce que des fois dans ce genre de sujet, on peut avoir du voyeurisme, mais là il y a une très très grande sensibilité.
D'accord, Denis. Eh bien, on arrive alors à terme, comme on dit, de l'émission. Le mieux, c'est de rappeler que ce festival du film sur l'art brut, l'art populaire contemporain, les expressions hors normes, les environnements, a lieu donc samedi et dimanche prochain à la Maison des Cultures du Monde, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris. On le rappelle, c'est très important, l'entrée est libre, c'est gratuit. Et alors, là aussi, rappelez aussi, c'est l'Association pour la programmation hors champ, vous avez un site, vous pouvez aller voir. Et la présentation de cette association hors champ, Pierre-Jean Wurtz, qui n'était pas dans le studio ce matin, mais que nous saluons, et puis Denis Lavaux, qui était dans le studio, qui vient nous voir relativement souvent. Alors on continue, on continuera, et on encourage les auditeurs de Radio Libertaire qui ne connaîtraient pas encore l'art brut, eh bien, de venir samedi et dimanche prochain à la Maison des Cultures du Monde. Voilà, Denis Lavaux, l'émission Chronique Hebdo, c'est terminé. Si tout va bien, comme on dit, on se retrouve, c'est pour le 1er mai, c'est pour le défilé, la semaine prochaine. Et on dit aux auditeurs, eh ben, restez à l'antenne de Radio Libertaire, l'émission de chansons non crétinisantes sur Radio Libertaire, de rimes et de notes, avec Marlène et ses invités. Je vous dis, Denis Lavaux, à bientôt, salut, et puis on espère retrouver les auditeurs samedi.
Merci à toi, merci
prochain.
Radio Libertaire.
Voilà. Salut.
À bientôt.